Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump menace de surtaxer le vin français, et ce en réaction à la taxe GAFA, adoptée en France il y a 2 semaines par le Parlement. Un Donald Trump qui n'hésite pas à parler de la stupidité d'Emmanuel Macron. Alors, le gouvernement français est-il entré dans un dangereux face-à-face avec le président américain? Pourquoi la France a-t-elle décidé seule de s'en prendre ainsi à ces géants américains du web qu'on décrit parfois comme étant aussi puissant que des États? En ciblant le vin français, est-on dans le symbole ou faut-il redouter une dangereuse escalade commerciale et politique entre la France et les États-Unis? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Trump, le vin français va-t-il trinquer ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes l'auteur des Talents et des Assassins chez Anne Carrière. Nous accueillons Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de Argent sale, à qui profite le crime, c'est aux éditions Erol. Et enfin Anne Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine. Vous habitez aux États-Unis, donc vous êtes revenu, vous y étiez encore il y a 2 semaines, et vous êtes l'auteur de Dans la tête de Donald Trump aux éditions Stock. On va commencer avec vous, du coup, Anne Toulouse. Quand ça surprend, mais ça surprend plus même, quand on voit Donald Trump traiter, parce qu'il ne parle pas de la taxe, il parle d'Emmanuel Macron, de la stupidité d'Emmanuel Macron. On se dit que ça rabaisse quand même le niveau des échanges internationaux. On est plus proche de la cour d'école que, bah, je ne sais pas, que de ce qu'on attend entre deux grands dirigeants des plus grands pays de la planète, non ?
Oui, certes. Déjà, je contesterais un peu le mot de stupidité. L'original, c'est foolishness. C'est plutôt, il n'y pense pas, il est étourdi. À quoi il pense, quoi, en gros, c'est ça. De s'attaquer, effectivement, aux États-Unis. Bon, vous connaissez Donald Trump, je vous ai dit ça tout à l'heure, ça vous a bien plu, je vais vous le répéter. Il a au moins une vertu, c'est qu'il ne change pas. Mmh. Donald Trump n'a jamais eu de filtre, il n'est jamais devenu présidentiel, et même s'il est réélu, je crois qu'il ne le deviendra pas, parce qu'il adore ce qu'il est, et il a fait toute sa carrière en brisant tous les tabous, en disant ce qu'il pense et en provoquant les gens. Ça lui a réussi puisqu'il a été élu président des États-Unis à la surprise générale, peut-être y compris la sienne. Et donc, il continue à faire ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire en politique et à intimider. Alors là, il s'attaque au tabou absolu pour la France, ce qui prouve que quand même, il connaît la France.
Au tabou absolu.
Le vin.
Ah oui, d'accord.
On aurait pris.
J'ai cru que s'attaquer au président, c'était tabou absolu.
Non, donc, ça, c'est un sport national, ah, oui. C'est autre chose. Non, le vin français, dont il dit qu'il préfère le vin américain, ce qui est drôle parce qu'il ne boit pas, mais le vin, c'est un symbole. Ça n'est pas la première exportation. Enfin, ça, je pense que les économistes vont vous le dire mieux que moi. Mais,
c'est un symbole de la France.
C'est le symbole de la France.
Bush en était pris au fromage, vous savez.
Oui, mais moi, j'ai vécu, alors, dans ma carrière de journaliste, j'ai vécu la guerre du Roquefort, la guerre du foie gras. Enfin, vous savez, c'est toujours, quand on pense France, bon, on aura peut-être un jour la guerre du parfum. Alors, on aurait fait la guerre des turbines pour les centrales atomiques, qui sont quand même un des gros atouts commerciaux de la France. Je pense que ça aurait moins frappé les esprits. Là, il sait quand même... Donald Trump a un sens aigu de la communication, de la publicité. Et là, vous voyez, on en parle ce soir. Bon, ce qui ne veut pas dire que le sujet soit négligeable, parce que la France est quand même le deuxième exportateur de vin après l'Italie, j'ai le regret de le dire, à cause du Prosecco, ce que je trouve une faute de goût absolue, mais enfin, que voulez-vous. Bon. Et nous, on se bat avec le rosé, qui marche très bien, je peux vous le garantir.
Sur le fond, donc, Donald Trump réagit ainsi suite à cette taxe GAFA qu'on a inventée en France et qui a été adoptée définitivement il y a 15 jours. Philippe de Sertine, on dit souvent que ces géants d'Internet, ils sont plus puissants que des États. Est-ce que ce n'est pas un peu présomptueux de la part de la France de partir toute seule en guerre contre ces GAFA?
Alors peut-être je rebondis sur trois points de votre question, parce que déjà plus puissant que des États, mais on voit quand même que quand ils sont attaqués, c'est le président américain qui monte en première ligne. Ça veut dire que ce sont bien des entreprises américaines, il n'y a pas de doute. Et on voit bien que parfois, justement, quand on a tendance à dire l'économie domine le monde, non, la géopolitique est toujours là. Hein. Et Trump surveille si l'on n'attaque pas ces grands porte-avions économiques ou militaires. Et là, en l'occurrence, c'est économique. Première chose. Deuxième chose, quand on est en train de parler de ce problème de taxation GAFA, peut-être nos téléspectateurs diraient, mais c'est de la fraude fiscale, encore des gens qui ont caché leur... Non, ils n'ont pas caché. C'est tout le problème de calculer l'impôt sur cette activité. C'est-à-dire que nos façons de calculer l'impôt, quand vous fabriquez une voiture en France, vous dites, on regarde combien elle a coûté, on regarde combien elle va la vendre. Si vous faites du bénéfice, on vous taxe dessus. Ça, c'était la méthode traditionnelle qui est appliquée tout le temps en économie. Le problème, quand vous êtes en train d'utiliser Amazon ou Google ou Facebook, ou d'ailleurs Alibaba, hein, puisque ça vaut aussi évidemment pour les géants chinois, c'est que oui, on voit que vous allez l'utiliser, mais combien ça rapporte réellement sur le territoire français, combien ça a coûté sur le territoire français, c'est ça toute l'ambiguïté. Et depuis le départ,
c'est insaisissable le business des GAFA, il est dans le cloud, comme on dit dans les nuages.
Il est dans le cloud, et d'ailleurs souvent, ils ont le cœur de leur business n'est pas en Europe, ou il n'est pas près du consommateur.
L'algorithme.
Il est souvent aux États-Unis, entre parenthèses. D'où cette idée que, effectivement, la fiscalité traditionnelle, elle ne marche pas. Et c'est effectivement ce constat en disant, mais c'est incroyable, ils ne payent pas d'impôts. Alors qu'ils
gagnent énormément d'argent en France.
Alors qu'ils gagnent énormément d'argent. Alors voilà, c'est toujours, vous voyez, est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Si on savait combien ils gagnent réellement, ça va. Si on regarde combien ils ont d'utilisateurs, on dit, il y en a beaucoup. Si on regarde comment se passe la manière dont ils gagnent de l'argent, c'est là que commence le problème. Et d'ailleurs, là, l'impôt que propose la France, c'est un impôt, on va dire, à l'ancienne, on pourrait dire un impôt moyenâgeux, en disant, non, on ne va pas chercher à savoir combien les gens gagnent, qui est la meilleure façon de calculer l'impôt. Normalement, on ne paie l'impôt que sur ce qu'on gagne. On dit qu'ils vont payer un impôt sur ce qu'ils vendent. Et là, effectivement, on revient, vous voyez, un peu en arrière, un impôt sur le chiffre d'affaires en disant, écoutez, disons que voilà, c'est un
prendre un impôt sur le chiffre d'affaires, en général, on prend un impôt sur les bénéfices.
Exactement, c'est vraiment les endroits où, justement, vous voyez, les pays qui ont encore un impôt sur le chiffre d'affaires, c'est ceux qui n'arrivent pas à avoir la comptabilité de leurs entreprises. Ils disent, bon, je ne sais pas trop combien ils gagnent, allez hop, je sais combien ils vendent ça, alors là, en revanche, je les impose. Alors la France, effectivement, a pris la tête de cette fiscalité, on va dire, là, on parlera tout à l'heure de la politique américaine, on peut vraiment parler aussi de la politique française. C'est important, on va dire ça, c'est quelque chose en effet qui marque beaucoup en France, pays où la fiscalité est très lourde. Si on dit les GAFA ne paient pas beaucoup d'impôts, super, si on tape sur les GAFA, on va dire ça fait plaisir à tout le monde en France.
Ah, donc il y a un petit ressort politique.
Évidemment, hein. Évidemment. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie, M. Le Maire, monte très 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 en pointe sur cette question, très clairement, lui aussi joue une carte politique.
Il y a un côté Astérix là, face à l'envahisseur, alors non plus alors, romain, là, mais...
La question c'est savoir si on a une potion magique, hein. Là vous avez raison, et malheureusement, on craint que non, parce que là, la vraie question, en effet, d'ailleurs, l'idée, pourquoi on a une réponse sur le vin et pas sur un GAFA français, il pourrait dire, comme vous voyez, Airbus, Boeing, là, c'est la guerre entre les deux avionneurs. Là, quand on est sur les GAFA, la réponse, c'est l'agriculture française.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas taxer la technologie française parce que des États-Unis, elle n'existe pas.
Exactement. Et là, vous pouvez aller au stade européen, et ça explique pourquoi, quand vous dites la France est toute seule, parce que tous les Européens disent, attention, là, il n'y a pas de deuxième solution si on n'a plus les GAFA. Puis aussi, peut-être, il y en a une autre, c'est les Chinois, mais on n'est pas sûr que ça vaille mieux.
Il n'y a pas d'alternative.
C'est la vraie question,
Facebook,
c'est que les Européens n'ont pas développé des géants à ce niveau-là.
Sylvie Matelli, quel est le... Alors, à l'instant, Philippe de Sertine disait, vous savez, ces GAFA, on se rend bien compte qu'ils sont américains, et d'ailleurs, Donald Trump vole à leur secours. Mais quel rapport entretient Donald Trump avec ces quatre entreprises mythiques, donc que sont Google, Facebook, Amazon et Apple? Je pose la question, mais... J'ai une petite idée derrière la tête. Leurs relations ne sont pas les meilleures, on dit.
Alors, leurs relations ne sont pas très bonnes, mais ça reste des entreprises américaines et ça reste des champions américains. Donc, bien évidemment, bien que les relations soient plutôt tendues depuis...
Pourquoi? Parce qu'il paraît que quand on tape Donald Trump sur Google, les réponses apportées par Google n'étaient pas reluisantes et ça a agacé profondément Donald Trump.
Il y a probablement ça. Il y a aussi le fait qu'on parlait tout à l'heure d'un impôt d'un autre âge. C'est vrai que Donald Trump a une compréhension de l'économie qui est une économie plutôt des années 80-90 et donc il a un peu du mal à percevoir ce que représentent ces entreprises du numérique et il est parfois agacé par le poids et le pouvoir qu'elles ont pu prendre dans l'économie. Ce sont aussi des entreprises de la côte ouest. Donc, qui l'ont pas vraiment soutenu pendant la campagne et qui n'étaient pas véritablement favorables.
Qui sont plus de culture démocrate, on dit.
Qui sont plus Facebook, tout à fait. Ce sont des jeunes, c'est une jeune génération d'entrepreneurs avec des méthodes qui sont très différentes de ce que connaît et de ce dont a l'habitude le président Trump. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement d'affinité. Et puis en plus, Donald Trump a des relations personnelles avec certains dirigeants qui sont clairement dégradées, que ce soit avec le PDG d'Amazon, qui a racheté le Washington Post en s'en souvient, et qui n'est pas le meilleur ami non plus du président Trump.
Washington Post, vous confirmez, Anne Toulouse, il tape régulièrement sur Donald Trump.
J'allais dire, c'est son fonds de commerce. Le Washington Post a été miraculé par l'arrivée de Donald Trump.
Et ça appartient
je pense qu'on peut considérer que le rachat par Bezos et par Amazon du Washington Post a été perçu par Donald Trump comme une agression, en fait, à son encontre, hein, me semble-t-il.
Oui, parce que tous les matins, vous lisez, enfin, c'est Et ça a doublé le chiffre d'affaires du Washington Post, qui avait quand même quelques difficultés et qui s'est complètement, qui a trouvé une nouvelle vie à travers Jeff Bezos et à travers Internet. Mmh. Et Internet a une immédiateté qui fait que c'est quelque chose qui asticote Donald Trump toute la journée.
Alors pourquoi vole-t-il au secours là, d'Amazon du coup et de ces GAFA? C'est parce que ce sont des entreprises américaines.
Ce qu'on vient de dire, c'est que ce sont des géants de l'économie américaine et que les Américains sont tout ce qui est... Enfin, vous le dites mieux que moi.
Et qui plus est, on ne refait pas, et vous l'avez dit, Donald Trump ne changera pas et ne change pas. On attaque des intérêts américains, il défend l'Amérique d'abord. On est sur cette question de la taxation, et Philippe l'a évoqué également, on est sur une question qui est beaucoup plus dans politique et stratégique qu'économique en tant que telle. Côté américain, il s'agit de défendre les intérêts des Américains, et de quoi se mêle-t-on que de venir taxer des entreprises américaines, ce qui est extrêmement amusant quand on connaît la capacité des États-Unis à imposer un certain nombre une extraterritorialité sur un certain nombre de règles, y compris la taxation avec la loi FATCA en particulier. Vous vous souvenez, les personnes
De révéler leur existence aux contribuables américains, au fisc américain.
Complètement. Mais même du côté français, il est question de quelques centaines de millions d'euros à collecter. Alors, c'est pas rien, quelques centaines de millions d'euros, mais ça a été présenté, cette taxe, comme un moyen de financer les mesures qui ont été annoncées dans le cadre des Gilets jaunes et de toutes les manifestations des Gilets jaunes. Ça couvrira pas l'ardoise, en fait. Donc, on est vraiment dans une question qui est beaucoup plus politique et symbolique qu'économique en tant que telle.
Alors, stupidité, sottise ou bêtise, hein, quelle que soit la traduction de foolishness, le mot employé ce vendredi par Donald Trump à l'égard d'Emmanuel Macron n'a rien de diplomatique. Le président américain ne cache pas sa colère face à une France décidée à taxer les géants du numérique. Et Donald Trump veut carrément se venger, on l'a dit, sur le vin français. Retour sur cette tension entre Paris et Washington avec Pierre-Millet Mélando et Mélanie Nunes.
Il suffisait que Paris s'attaque aux géants du numérique pour que Donald Trump parte en guerre sur les réseaux sociaux.
La France vient d'imposer une taxe numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu'un devait les taxer, cela devrait être leur pays d'origine, les États-Unis. Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français.
Taxer le vin. Une réponse façon Trump au récent combat du gouvernement français pour une imposition plus juste des grands groupes du numérique, surnommés GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Des entreprises pourtant pas forcément américaines, selon Bruno Le Maire.
Je souhaite vivement qu'on ne mélange pas les deux sujets. C'est notre intérêt collectif de parvenir à une juste taxation des activités digitales dans le monde. Nous avons bien progressé sur ce sujet. Puisque nous avons obtenu au G7 des ministres des Finances à Chantilly, la semaine dernière, un accord sur la taxation du digital. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est travailler étroitement avec nos amis américains à une taxation universelle des activités digitales.
Car en Europe, les GAFA ne sont imposés en moyenne qu'à 9%, contre 23% pour le reste des entreprises. Et la France a pris les choses en main. Le 11 juillet dernier, le Sénat valide la mise en place d'une fiscalité plus sévère pour ces grands groupes, malgré les premières menaces américaines.
Qui est contre ? Adopté. Le projet de loi est définitivement adopté.
On ne s'amuse pas à menacer des États aussi responsables et démocratiques que la France et qui cherchent à trouver dans cette nouvelle économie les régulations nécessaires pour qu'il y ait un peu de justice. L'injustice et les désorganisations complètes de l'économie dans le monde, ça produit des désordres incroyables.
Et si l'opposition aux mesures françaises se fait entendre au-delà de l'Atlantique, elle existe aussi au sein de l'Europe. Car s'en prendre aux GAFA est loin de faire l'unanimité dans les frontières de l'UE. Il y a déjà les pays qui craignent les représailles américaines, comme l'Allemagne, la Finlande, la Suède et le Danemark. Et surtout, les autres. Ceux qui pratiquent une fiscalité plus avantageuse et qui ne souhaitent pas de changement, comme l'Irlande, le Luxembourg, Malte, Chypre et les Pays-Bas.
S'il y avait une taxe dans tous les pays européens, des pays qui accueillent les sièges sociaux d'Amazon Europe ou de Google Europe, eh bien, perdraient ces sièges sociaux. Donc évidemment, on voit bien la difficulté de se mettre d'accord à 28 dans l'Union européenne.
Mais la croisade française contre les GAFA peut-elle vraiment aboutir sur une guerre économique avec les États-Unis de Donald Trump ? Selon de nombreux spécialistes, la menace est bien réelle.
C'est une stratégie globale de Donald Trump. Il pense qu'il peut obtenir absolument ce qu'il veut du point de vue du commerce en menaçant ses partenaires de tarifs douaniers prohibitifs. Et là, avec la France, comme il n'est pas content de la taxe sur les GAFA, eh bien, il agit de la même manière.
Face à cela, la France n'a qu'un objectif. Réunir différentes nations autour de sa cause lors du prochain G7 en août à Biarritz et ainsi faire monter la pression sur les GAFA.
Alors, question téléspectateur. Angela Merkel est-elle opposée à la taxe GAFA, Philippe de Sertine ?
Elle n'est pas opposée. Hein. C'est vraiment ceux qui se sont opposés quand on l'a porté au niveau européen et qui a arrêté le projet, ça a été les trois du Nord qu'on a vu dans le reportage, hein, Suède, Finlande, Danemark et l'Irlande.
Hein, alors donc, pourquoi ils sont opposés ?
Ah, bah, alors eux, ils sont vraiment, alors notamment l'Irlande, ils sont extrêmement liés aux GAFA, hein, puisque même là, on a des investissements très très lourds de Facebook, de Google, etc.
qui sont en Irlande. Sièges sociaux en Irlande. Hein.
Qui profitent évidemment des taux d'imposition très très bas. Là derrière, nous avons aussi les questions de fiscalité, la différence de fiscalité en Europe. Et là, bien entendu, quand on voit la France, là, on est entre Français hein, dans cette émission, donc on peut le dire, vraiment la France est le chantre de l'impôt. Hein, donc nous, on a dit, nous, ce n'est pas des taxes, mais c'est de l'impôt. Donc effectivement, là, on sait faire et on est en pointe là-dessus. L'Allemagne n'était pas opposée quand il y a eu la présentation du point de vue européen. Il y a une partie, notamment, de l'opinion publique allemande qui serait pour, effectivement, une taxation supplémentaire. Mais l'Allemagne a un vrai gros souci, c'est-à-dire que son premier partenaire commercial du point de vue mondial, maintenant, ce sont les États-Unis. Il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, c'était la France. Maintenant, ce sont les États-Unis.
Donc, ils ne veulent pas se fâcher avec les États-Unis pour continuer à pouvoir vendre, exporter.
Disons que là, on sait très bien qu'il y a une mesure de rétorsion, que d'ailleurs, hein, on le constate bien, pour le moment, Donald Trump n'agite pas, c'est la question automobile. Pour les Allemands, s'il y avait vraiment une guerre commerciale qui passait par l'automobile, ce serait vraiment catastrophique.
C'est-à-dire que nous, Donald Trump nous menace avec notre vin, et Donald Trump fait la même chose avec les Allemands, mais là, il menace avec...
Non, je crois que c'est encore
les,
plus...
Les voitures.
Enfin, si vous me permettez, je n'ose utiliser ce terme, mais c'est plus subtil. C'est-à-dire que si Trump voulait vraiment attaquer les Européens, il parlerait automobile, parce que là, pour le coup, les Français seraient aussi sur le devant de la scène. En revanche, sur le vin, là, c'est clair, il tape sur la France. Parce que pour le vin, est quand même très stratégique pour la France. L'Allemagne, d'ailleurs, est un gros importateur de vin français, mais absolument pas concerné. Donc, je pense que là, vraiment, si vous voulez, du point de vue de Trump, il est bien en train de mettre le coin dans l'Alliance européenne en disant ce sont les Français qui se sont mis en pointe là-dessus. Et répétons-le, je crois que tout à l'heure, Sylvie avait raison, il faut rappeler, on est sur 450 millions. Alors évidemment, quand on est en train de regarder nos économies, ça fait beaucoup.
Par rapport aux dizaines de milliards de profits.
Oui, oui, non, mais surtout à combien nous avons besoin en matière de fiscalité française. Ça ne vous règle rien du tout. Hein. Ouais. On est vraiment très, très loin de ce que rapporte la TVA ou la CSG.
On est en centaines de milliards.
Oui, là, on est dans des centaines de milliards. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui a une force symbolique pour les Français. D'accord. Les Allemands ne veulent pas entrer dans ce symbole parce qu'ils ont peur, effectivement, d'en être des victimes collatérales.
Sylvie Matelli, sur cette possibilité qu'ont les Européens à se mettre d'accord pour faire une taxe Google et donc on se retrouve à la bricoler chacun dans son coin. Pourquoi est-ce que l'Irlande et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire entendre raison à l'Irlande et à ces 4 pays là qui ne veulent toucher à rien?
Alors l'Irlande a profité largement de sa fiscalité très avantageuse des numériques, des entreprises du numérique, mais pas seulement. Le développement économique de l'Irlande sur ces 20-25 dernières années s'est essentiellement fondé sur l'attractivité du marché irlandais parce que la fiscalité était très faible.
Alors, pardonnez-moi, est-ce qu'elle siphonne les recettes qui devraient revenir à l'État français en promettant à Google une faible taxation? Est-ce qu'il y a un jeu égoïste et au détriment de la France?
Tout à fait. Et c'est tellement évident que même la Commission européenne s'y est attaquée. Rappelez-vous, il y a quelques années, elle avait demandé à l'Irlande d'aller taxer certaines entreprises, alors je ne me souviens plus lesquelles, qui ne payaient pas, et qui étaient du numérique me semble-t-il, qui ne payaient pas assez d'impôts en Irlande. Et l'Irlande s'était refusée à aller taxer ces entreprises. Donc,
c'est les 13 milliards d'Apple.
Tout à fait, c'est les 13 milliards d'Apple.
Il y lieu de dire bravo, il y a 13 milliards qui me tombent
tout
du ciel,
avait refusé catégoriquement.
Je refuse de taxer Apple.
Complètement.
Donc, est-ce qu'au fond, le coupable, c'est peut-être pas Google ou Apple qui profitent de. C'est que les Européens font du dumping fiscal et que l'Europe est un merveilleux théâtre. Pour une entreprise un peu agile qui saurait profiter des législations différentes.
C'est toute la difficulté qu'ont aujourd'hui les Européens à s'entendre sur la fiscalité, puisque c'est un vrai sujet, la fiscalité en Europe et aux États-Unis depuis la crise de 2008 et toutes les critiques qui ont été faites sur les banquiers, les multinationales qui hébergeaient tout leur argent dans les paradis fiscaux, les banquiers qui avaient un certain nombre de comptes et accordaient un certain nombre de facilités. Donc c'est un sujet très politique, c'est un sujet très populaire auprès des opinions publiques qui souhaitent que les grandes entreprises soient taxées de la même manière qu'un particulier ou qu'une plus petite entreprise.
Si un pays sur 28 s'y oppose, tout est bloqué.
Est-ce qu'il faut, du coup,
il est question de passer, non pas à l'unanimité, mais au vote majoritaire. Ça avance, alors, ce débat ?
Oui, alors évidemment, ça pourrait, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, qui commence effectivement à circuler beaucoup à Bruxelles. Cette idée que l'unanimité, en fait, nous amène à des blocages sans cesse. Peut-être quand même sur ces questions fiscales, d'ailleurs, dans les États américains, par exemple, toutes les entreprises américaines ont leur siège dans le Delaware, parce qu'on a aussi des différences en termes fiscaux.
Oui, il y a des Irlandes. C'est quelque chose que vous avez dans l'esprit quand vous vous installez quelque part ou quand vous lancez un petit business.
Mais il y a un impôt fédéral quand même aux États-Unis.
Il y a un impôt fédéral, mais il y a un gros impôt local
qui n'est pas négligeable au terme de l'ordre
qui n'a rien à voir avec les impôts locaux qu'on paye ici. Vous avez facilement, dans certains États, vous pouvez avoir votre impôt local qui va être le tiers de votre impôt fédéral.
Alors, on peut concevoir qu'un petit peu de concurrence, c'est bien, mais nous, on est finalement 100% en concurrence
entre
nous.
Mais peut-être quand même, toujours pareil, il faut avoir un tout petit peu de recul. Je conçois que vous ayez cette réaction que doit avoir beaucoup de téléspectateurs. Par exemple, l'Irlande, quand elle est arrivée dans l'Europe, c'était un pays ultra pauvre. Donc ça veut dire que l'Europe devait faire énormément d'investissements, devait beaucoup aider. Et la crise, d'ailleurs, a mis l'Irlande en très grande difficulté, qui a obligé les Européens, dont nous, à refinancer l'Irlande. L'idée européenne, c'est de dire, si c'est possible de ne pas passer par un financement direct, essayez de vous débrouiller par vous-même. Et c'est comme ça que l'Irlande a dit, écoutez, je ne vais pas vous demander, mais moi, je vais mettre un impôt très faible parce que c'est ma stratégie pour attirer des grands groupes. Et pour le coup, ça a marché, si vous voulez, ça a allégé la note irlandaise par rapport au reste de l'Europe. Simplement, quand ça marche trop bien, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire quand, effectivement, vous allez avoir le plus grand siège Facebook en dehors des États-Unis, qui est en Irlande, à Dublin, on est d'accord qu'évidemment il y a YouTube, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'impôt, effectivement très très faible, a joué beaucoup. Donc
tout l'argent remonte en Irlande et il est taxé en Irlande.
Non, justement. C'est-à-dire vous avez une taxe très faible, donc ils perçoivent rien, mais ils perçoivent les à côté d'avoir des entreprises qui viennent là parce que l'impôt est très faible. Attention, d'ailleurs entre parenthèses, c'est exactement la stratégie que devrait mettre en place ce cher Boris Johnson, puisque sa grande idée, c'est de dire, mais l'Irlande a trouvé la bonne solution.
Sauf qu'il n'y aura pas d'accords commerciaux si la Grande-Bretagne.
Sauf que la Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus grand que l'Irlande, quand même. Ouais. C'est beaucoup plus attirant, éventuellement. Mais donc, voyez, là vous avez une réflexion qui est aussi très française.
D'accord.
Nous, la fiscalité, c'est tellement important qu'on est super focalisé là-dessus. Les autres Européens ne le sont pas forcément autant.
D'accord. Ça s'appelle une taxe GAFA. Est-ce que Donald Trump n'a pas raison quand il dit que c'est incroyable de faire une taxe qui s'adresse quand même à Google, Apple, Facebook et Amazon? C'est quand même une taxe dédiée, comme on dit.
On a choisi un nom de taxe qui parlait à une opinion publique française. La taxe GAFA, c'est bien, on va taper sur les entreprises américaines, regarder comme elles sont riches et comme elles profitent largement de notre marché national. Ce n'était pas très habile, parce que dans la réalité, ce n'est pas seulement les GAFA qui sont concernés par cette taxe.
Ah bon ? Oui, c'est une taxe qui...
Alors, le volume, c'est 750 millions... d'euros de chiffre d'affaires annuel pour être assujetti à la... ce qui est très très peu pour une entreprise, et pour que ce soit français, 25 millions en France.
Donc aussi bien, il y a des entreprises françaises
qui sont... En réalité, il y en a une seule qui pourrait être concernée, c'est Criteo. Mais effectivement, on peut avoir des entreprises...
Criteo, c'est une entreprise de publicité sur Internet
française. Qui se finance beaucoup, d'ailleurs, aux États-Unis,
mais qui sera concernée par cette taxe qu'on appelle abusivement GAFA, mais qui concerne aussi les entreprises chinoises.
Alors, simplement, quand c'est une entreprise, par exemple, Criteo payant ses impôts sur le territoire français, va pouvoir déduire en quelque sorte. D'accord. Vous ne payez pas deux fois. C'est en disant que c'est une taxe supplémentaire par rapport à ceux qui ne paient pas la taxe sur l'impôt traditionnel des sociétés que l'on peut avoir dans les entreprises.
Quelle est la réalité quand on dit qu'ils ne payent pas d'impôts ? Ils en payent vraiment très peu ou quand
même ? Très peu. C'est-à-dire ce qu'on voyait tout à l'heure dans le reportage. Vous voyez, ils sont à 9%, on va dire.
Et ça n'offusque pas grand monde, à part les Français ?
Enfin, ça
offusque beaucoup de monde, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre.
Et finalement, avec cette taxe GAFA, c'était, je me souviens, Margaret Vestager qui avait dit « France is showing the way ». La France, une fois de plus, nous sommes très, je crois que c'est la France qui a inventé la TVA. Oui. Nous sommes encore à la pointe quand il s'agit de créer un impôt nouveau.
La fiscalité, on est au top, ça sincèrement, il faut bien dire. Mais c'est vrai, vous savez que les Grecs avaient fait venir des experts français pour regarder comment envisager des nouvelles taxes. Donc non, ça, il n'y a aucun...
On repère quelqu'un qui ne paye pas beaucoup d'impôts et on lui invente une taxe pour
qu'il
en
paye.
Oui,
mais je crois vraiment, vous voyez, que derrière peut-être ces boutades, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le fait que l'économie est en train de changer de manière incroyable. Je dirais, ce qui se passe, la révolution technologique, fait que sur l'impôt aussi, sur le financement de l'État, il va falloir se réinventer. Nous sommes aujourd'hui vraiment à un moment tournant où les solutions d'avant, vous voyez, on pourrait dire peut-être que le prélèvement à la source, c'est déjà fini. Ça tombe mal, on est les derniers à avoir été. Mais voyez, mais probablement demain, quand vous allez avoir blockchain, vous ne pourrez plus être prélevé à la source. Il faudra à nouveau retrouver une manière, parce que l'État doit toujours exister, l'État doit se financer, mais les méthodes que nous avons qui sont issues, on va dire, des révolutions industrielles précédentes...
Avec des usines bien localisées, des ouvriers bien localisés,
voilà, avec
des activités réelles.
Voilà, des entités très simples à identifier. Là, on est arrivé à fiscaliser.
Maintenant, un algorithme sur Internet, c'est très difficile à taxer les revenus issus de cet algorithme.
Absolument.
Quand Bruno Le Maire dit « mais cette taxe GAFA, elle est un peu stupide, j'en conviens, parce qu'elle taxe le chiffre d'affaires et non pas les bénéfices. »
Il n'a pas dit stupide, hein, lui.
Oui, lui, il l'a dit. Mais...
Il a dit
voilà. Mais il dit « je l'enlèverai dès qu'on aura, on sera mis d'accord au niveau mondial, ou au niveau de l'OCDE. » C'est crédible. Il paraît quand même que les travaux avancent pour essayer de, que tous les pays se mettent d'accord, parce que c'est un problème qui concerne tous les pays. Alors, on y arrivera à taxer quand même ces algorithmes d'Internet.
Je crois que politiquement, on n'a pas le choix. Il faudra bien y arriver. Alors, dans quelle dimension et sur quel type de mesure, c'est plus compliqué. Ça fait un moment que l'OCDE travaille sur ces questions. C'est en 2008, au moment de la crise de 2008, que les pays du G20 avaient demandé à l'OCDE de travailler sur la question de la taxation.
On est proche du dénouement, là, et qu'on y arriverait. Peut-être au G7, qui va se tenir le mois prochain à Biarritz, serons-nous des annonces, non ?
Sur la création. C'est pas l'OCDE, c'est beaucoup plus restreint que l'OCDE, parce que dans l'OCDE, vous avez des géants.
Au moins, les sept grands pays se mettent d'accord pour que ça
avance. Oui, déjà. Et a priori, c'est quand même pas fait encore. On va dire que, répétons-le, je crois qu'on sent qu'il y a vraiment, il y a eu beaucoup de, dans le G7, donc qui est le club des plus grands, mais même dans le G20, toute l'année dernière, le G20 est travaillé justement sur ces problématiques autour de ces nouvelles technologies. J'évoquais blockchain tout à l'heure, quand Facebook a commencé à créer sa monnaie. Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent avoir des impacts très très lourds sur le financement des États, pas simplement les grands, y compris les tout petits États, y compris les États très pauvres. Et donc, on a bien conscience qu'il y a un vrai, vrai gros chantier devant nous. Mais si c'était simple, ça ferait longtemps qu'on aurait mis en place une nouvelle solution. La complexité, elle est très, très forte. Ouais. Et les solutions, pour le moment, elles sont très, très moyennes, pourrait-on dire.
Anne Toulouse, ça nous rappelle que dans un mois, il y a le G7 à Biarritz. Comment va arriver Donald Trump ? Et quelles sont ses relations avec Emmanuel Macron ? Il va arriver fâché ou bien on oublie le mot foolishness et on...
C'est entre la France et les États-Unis, c'est toujours une histoire d'amour, je t'aime moi non plus. Et je pense qu'Emmanuel Macron, depuis longtemps, sait que Donald Trump n'est pas quelqu'un d'extrêmement constant dans ses affections. Ce que je voulais dire, c'est, pour faire une parenthèse sur ce que vous disiez, c'est que le service des impôts américain, l'IRS, vient d'envoyer une circulaire à tous les gens qui avaient acheté de la crypto-monnaie en leur disant « attention ». Mais ce qui montre bien que les États-Unis eux-mêmes, l'impôt fédéral a ce genre de problème en disant « attention, vous pensez échapper à la taxation, on doit vous dire là, on va être gentil parce que peut-être vous ne saviez pas, mais à partir de maintenant, vous payez un impôt là-dessus ».
Les gains, les plus-values réalisées sur les bitcoins doivent être taxés. C'est pas parce que c'est de l'Internet que c'est non taxé.
Voilà, ce qui prouve que ça ne l'était pas seul coup. Donc les États-Unis eux-mêmes entrent dans ce cercle.
Alors, même s'il ne boit pas de vin, Donald Trump a des avis très tranchés sur le vin français, en tous les cas sur ses taxes. Les viticulteurs français qui exportent beaucoup aux États-Unis doivent-ils prendre ces menaces au sérieux ? Élément de réponse avec Julien Launay et Victoria Rouxel.
Dans la presse nationale et régionale, des mots lourds de sens. C'est à l'un des plus beaux emblèmes de la culture française que le président américain pourrait s'attaquer, le vin. Logiquement, sa menace a une plus forte résonance dans certains endroits, comme ici, au pays du Sancerre.
Les États-Unis représentent à peu près 25% de mes exportations, sachant que j'exporte 60% de ma production. C'est donc un client tout à fait de première importance pour nous. Si les taxes sur l'importation augmentent, ce sont les importateurs distributeurs américains qui vont les payer. et qui devront les répercuter d'une façon ou d'une autre, soit sur leurs clients américains, soit sur le prix de vente des vignerons.
Depuis l'automne dernier, ce vigneron prépare une nouvelle cuvée pour en vendre une bonne partie à l'étranger. 21 000 bouteilles partent chaque année aux États-Unis, ce qui génère 170 000 euros de chiffre d'affaires. Destination attractive, d'autant qu'elle peut s'avérer précieuse pour la renommée.
Voilà, donc on arrive dans la pièce où on stocke en fait toutes nos bouteilles. Ici, deux commandes qui partent pour les États-Unis justement. Donc on a Farrell, un distributeur dans le Vermont, et Verity, qui distribue sur New York. New York, c'est un marché important, c'est vraiment une capitale du vin aujourd'hui. Il y a des capitales comme ça, Paris, Londres, New York, Montréal, ces endroits où, au-delà du côté économique, il faut être placé pour être bien représenté sur les grandes tables new-yorkaises. Il y a vraiment beaucoup d'amateurs de vin, les grands sommeliers passent par New York. C'est donc un marché qui est important aussi en termes d'image.
Traverser l'Atlantique, une évidence, mais pour combien de temps encore ? Donald Trump n'en est pas à son premier coup de semonce. En novembre déjà, il avertissait.
La France fait un excellent vin, mais les États-Unis aussi. Le problème est que la France rend très difficile pour les États-Unis le fait de vendre ses vins en France avec des taxes importantes, tandis que les États-Unis facilitent la vente de vins français avec de faibles taxes. Pas juste, il faut changer.
Concurrence jugée déloyale. En matière de tarifs douaniers, le déséquilibre est une réalité. Exemple avec une bouteille de vin blanc dont la teneur en alcool s'élève à 13%. Celle venue des États-Unis est taxée 10 centimes en entrant en France. 4 centimes seulement pour une bouteille française à son arrivée sur le sol américain. Donald Trump vient donc de hausser le ton à nouveau avec un discours aux accents protectionnistes.
J'ai toujours préféré le vin américain au vin français, même si je ne bois pas de vin. J'aime bien son apparence.
Le vin américain qui tente de se faire une place dans les rayons ici en France.
Donc voici la gamme des vins des États-Unis, avec donc différents vins en fonction de différents terroirs, différentes vallées, Napa Valley, Sonoma Valley. Les vins américains à 99% proviennent de la Californie.
Pour ce spécialiste, la différence entre les tarifs douaniers a un impact limité.
Ça n'influence en rien, on va dire, la consommation du vin américain en France, qui reste un marché de niche, puisque on l'estime autour de 25 à 30 millions d'euros la consommation des vins américains en France, qui représente plus ou moins 0,2% de la consommation totale des vins.
Avec le vin, Donald Trump sait qu'il touche à un symbole. Comme avec l'olive en Espagne, Washington ayant imposé sur ce produit de nouveaux tarifs douaniers.
Alors, question téléspectateur, quel impact aurait une réduction drastique des exportations de vins français vers les États-Unis ? Philippe de Sertine, est-ce qu'on est dans le symbole ou est-ce que quand même on parle là d'une chose importante pour même l'économie française, quoi.
Non, on parle d'une chose importante. D'ailleurs, il faut en profiter, en parler aux Français. Parce
vous que êtes bordelais, hein.
Oui,
vous allez faire la pub du bordelais, là.
Non, mais même, je travaille sur l'agriculture. Il faut rappeler, quoi, la balance commerciale française, quand vous avez le premier poste, c'est Airbus, on s'y attend. Le troisième poste, c'est les cosmétiques. On va dire, ah oui, c'est le luxe français. Le poste numéro 2, c'est le vin.
C'est-à-dire, deuxième c'est poste à l'exportation
absolument
de l'économie française. En excédent commercial.
En excédent commercial.
Les avions et le vin.
Exactement. Donc, ça veut dire que vraiment, en réalité, le vin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, j'ai sursauté hein, quand vous avez dit les Italiens sont meilleurs. Non, ils sont meilleurs, effectivement.
En volume ?
Non, en valeur sur les États-Unis.
Sur les États-Unis.
Le premier exportateur du monde, c'est la France.
Notre premier client à l'exportation pour le vin,
c'est les États-Unis.
Donc, c'est pas négligeable du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donald Trump, là, d'ailleurs, en fait, dans le reportage, il dit j'ai jamais bu de vin, en fait, je m'en fous du vin. Mais si, j'ai compris, on m'a expliqué, mes conseillers m'ont dit si tu veux taper que sur la France, et là, tu tapes fort sur la France, le vin. Là, il n'y a aucun doute, il n'y aura personne. Alors, effectivement, en Europe, on a les trois grands pays producteurs qui sont la France, l'Espagne et l'Italie, ou plus exactement, enfin, ça dépend si vous regardez en volume ou en valeur. Mais de toute façon, ce sont les trois très grands. Les États-Unis, c'est presque rien à côté. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'effectivement, les mesures de rétorsion, il n'y en aura pas. Et pour la France, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Ce que probablement ne sait pas Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'en plus, il y a une vraie fragilité de la filière. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui vraiment des secteurs qui peuvent être, et des secteurs géographique qui pourrait être vraiment en danger si vous avez en plus la lame de l'exportation qui se ferme, et notamment aux États-Unis. Là, ce serait très embêtant. Et là, bien entendu, je ne parle pas des très grands crus, très connus, très très chers. Non, on parle de quand on parle de la viticulture française, c'est des millions et des millions d'hectolitres produits à des prix tout à fait abordables que boivent d'ailleurs beaucoup les Français eux-mêmes, entre parenthèses.
Jean-Marc Vittori qui nous a rejoint des Échos. On a quand même, c'est pas vexant, mais quand même, on se dit que c'est un peu réducteur peut-être de réduire notre relation commerciale avec les États-Unis au vin. C'est vraiment si important que ça? On se dit que quand même, la France étant une grande puissance économique diversifiée, on a autre chose à proposer au reste du monde que nos excellentes bouteilles de vin, non?
C'est important, ça fait des excellents commerciaux. Je rappelle que sans le poste vin et spiritueux, l'agriculture française serait par exemple déficitaire au commerce extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait important.
Qui marche et qui génère des milliards.
Voilà. Et Donald Trump, il aime cibler les symboles. Donc la France, c'est le vin. L'Espagne, c'est l'olive. Et l'Allemagne, c'est l'automobile.
Parce qu'il s'en prend aux olives espagnoles.
Il s'en est pris aux olives espagnoles avec beaucoup d'efficacité. Et il va s'en prendre à la voiture allemande. C'est écrit. Moi, je prends le pari pour le printemps prochain.
Donc il nous divise, il nous compartimente et il cible nos points forts. Et comme ça,
avec des symboles.
Au lieu de réagir groupé, on est isolé, on essaye dans notre coin de défendre notre spécialité.
Exactement. Et il le fait tour à tour. C'est-à-dire qu'il a fait l'olive, il a commencé très vite. Le vin, c'est maintenant. L'automobile, ça sera après. Donc là, les Français vont tenter de mobiliser les Européens, mais à part les Espagnols et les Italiens, il ne va pas y avoir grand monde. Et puis, quand ça va être l'automobile, les Français, ils sont moins concernés. Ils n'exportent pas beaucoup d'automobiles aux États-Unis.
Mais c'était Napoléon, ça, qui, plutôt que d'affronter ses ennemis groupés, les affrontait les uns après les autres et gagnait à chaque fois.
Ça s'est mal fini.
Parce qu'à la fin, ils sont groupés.
Non, mais c'est l'une des techniques extrêmement importantes de Donald Trump. Il bilatéralise tous ces échanges, toutes ces relations, toutes ces négociations.
On le sous-estime, en fait. C'est un fin stratège.
Quand vous regardez tous les dirigeants du monde, ils ont fait des études supérieures de chimie pour Xi Jinping et Angela Merkel, de haute administration en France, des avocats, etc. Quand vous regardez ce que Donald Trump a fait comme étude, il a fait des études de promoteur immobilier. Tout ce qu'il a appris dans sa famille et ensuite dans ses études, c'est négocier. C'est un négociateur absolument redoutable.
Et je vais plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire qu'il va s'attaquer à Airbus. Mais Airbus, c'est quelque chose qui fédère les Européens. Est-ce que s'il s'attaquait à Airbus, il prendrait le risque de voir les Européens unis pour le coup, français, allemand, espagnol, en train de dire « Ah, pas touche à Airbus ».
C'est pour ça qu'on a tant entendu parler d'Airbus.
Il s'attaque à tout, somme toute. Il s'est déjà attaqué aux voitures allemandes en expliquant qu'il ne voulait plus en voir dans les rues de Washington ou de New York il y a quelques mois. Il s'est attaqué à Airbus face à Boeing il y a quelques semaines, par la parole, pour l'instant, pas du tout par des taxations. Donc il touche à tout. Il touche à tout et tout ce qui peut faire mal à un moment donné. Mais c'est vrai que son objectif, il a bien compris qu'il ne pouvait craindre des représailles que d'une Europe unie. Donc il fera tout pour ne pas unir les Européens autour de ça.
Anne Toulouse, en s'en prenant au vin, est-ce qu'il y a aussi un message électoral? Quelle est l'image du vin français aux États-Unis? Il est cher, je crois.
Non, pas du tout. Enfin, il y a des bouteilles très chères, mais moi, ce qui me frappe, c'est que vous allez au supermarché, vous trouvez des bouteilles à, je sais pas, à 7 dollars, quelque chose comme ça. Et c'est d'autant moins cher que le vin, l'alcool est moins taxé aux États-Unis qu'en France. Par exemple, la même bouteille de champagne que vous achetez à Paris ou à Washington, elle est un petit peu moins chère à Washington.
Ah oui, oui. Du fait du taux de change.
Oui, ce qui est bien pour moi. Hein. Ouais. Non, pas du fait des taxes sur l'alcool qui sont beaucoup plus basses et qui d'ailleurs varient d'un état à l'autre. Donc, on a cette image de produit de luxe qui existe. Effectivement, le vin français, c'est prestigieux. Mais en même temps, vous avez des exportations extrêmement bon marché et qui maintenant utilisent complètement la façon de présenter le vin américain qui, vous savez, n'est pas par origine, sauf pour les connaisseurs, mais qui est par cépage. Donc vous achetez vous voyez arriver des cépages d'ailleurs dont on ne parle jamais en France, comme le Chenin, le Viognier, des choses comme ça.
On joue sur les codes français d'ailleurs pour vendre ce vin américain pas spécialement je veux dire, ce n'est pas reconnu comme une grande spécialité française, le vin aux États-Unis.
Si, c'est reconnu comme une spécialité française, mais il ne faut pas oublier quand même que les Américains boivent aux trois quarts des vins américains, qui font trois quarts du marché américain. Après, vous avez donc les Français et les Italiens. Alors, les Français, effectivement, ont le prestige, mais en même temps, il y a des questions de mode. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie des Américains qui ne boivent pas. Un tiers des Américains ne touchent pas à l'alcool. et une majorité préfère la bière. Donc ça fait un marché qui est large numériquement, mais qui est un peu plus étroit. Ça doit être quelque chose comme 70 millions de personnes.
Et lui, il ne boit pas une goutte d'alcool. Alors, il est capable de juger de la qualité du vin sans le,
oui,
sans
alors,
le goûter.
Là, vous entrez dans, dans la psychologie de Donald Trump, qui ne s'embarrasse pas de problèmes de dégustation et de savoir exactement de ce dont il parle. Mais c'est vrai qu'il y a un vignoble dans la famille Trump, qui est en Virginie, et qui produit même du champagne, et c'est un véritable scandale. J'en ai goûté il y a 3 semaines, et je ne vous
Attendez,
le recommanderais
il
pas.
Il utilise l'étiquette champagne, le nom
non,
champagne
Non, alors non. Ça, c'est aussi c'est une grosse escroquerie. Les Américains appellent champagne tout ce qui a des bulles, d'où le succès de tous les champagnes.
Mais ce n'est pas une appellation protégée.
C'est protégé comme ça, mais on va vous dire, on va vous servir du champagne. Il y a bien, même certaines cartes de restaurants.
On dit pas du vin gazeux, du sparkling
on
water.
Dit bubbly, on dit bubbly, mais vous avez des tas de restaurants qui mettent sparkling wine et tout ça.
Et donc il fait semblant de boire, parce qu'on l'a vu l'autre jour trinquer là, dans une photo avec.
Vous êtes obligé.
Avec, on le voit là. Alors là, il a quoi? Il a du Canada Dry là dans.
Non, il ne boit pas parce qu'il y avait un problème d'alcoolisme dans sa famille.
Ah, d'accord.
Et il interdit à ses enfants de boire. Donc il y a une sorte de petite prohibition dans la famille Trump. Ce qui fait qu'il peut s'attaquer au vin en toute bonne conscience.
Philippe de Sertine, le ressort de tout ça, c'est que Donald Trump se dit « on se fait avoir par le reste du monde, il n'y a qu'à voir notre immense déficit commercial vis-à-vis du reste du monde ». C'est-à-dire que nous achetons beaucoup de produits étrangers, mais les étrangers ne nous achètent jamais rien. Et donc moi, Donald Trump, je vais rééquilibrer les échanges. C'est une dynamique, alors je ne sais pas si ça s'applique à la France, mais c'est une logique qu'on peut comprendre.
Non, mais je pense que quand vous regardez le mode de fonctionnement américain, je dirais que ça va très très bien quand même hein, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en revanche, il joue sur cet élément-là qui parle à la population américaine, à son opinion publique, en disant, vous voyez, c'est incroyable, le marché américain, et c'est vrai, par exemple, quand on évoquait le vin, bah oui, c'est le premier marché mondial, et dans beaucoup d'éléments comme ça...
Nous, on achète du vin français, mais eux, ils ne nous achètent pas de vin américain.
L'analyse de Trump et de ses équipes, ça a été de dire, en fait, une de nos armes énormes, c'est que tout un tas d'économies, d'industries, d'agriculture dans le monde ont besoin du marché américain. Le marché américain. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui doit beaucoup nous frapper parce que l'autre grand marché du monde, c'est le marché européen. Et les Européens n'arrivent jamais à utiliser cette arme-là. Trump, lui, est à fond là-dessus en disant, effectivement, les États-Unis vont utiliser tout un tas d'autres méthodes, on va dire, notamment pour se financer en utilisant le dollar grâce au fait que, précisément, dans le monde entier, on utilise le dollar pour faire des échanges, y compris pour vendre aux États-Unis. On va dire la balance déficitaire américaine, finalement, elle est refinancée par le reste du monde. Mais c'est vrai que politiquement, ça marche. Et c'est vrai qu'économiquement, il y a là une force très, très grande de dire, au fond, j'ai le marché le plus important. Si jamais je ferme le marché, je me rends compte qu'immédiatement, des pans entiers de l'économie en dehors des États-Unis peuvent s'effondrer. Les Chinois sont les premiers à le reconnaître. Les Européens le savent bien eux aussi.
On pourrait rétorquer à Donald Trump, peut-être que notre vin a beaucoup de succès aux États-Unis, mais nous, en France, si on va sur un ordinateur, tout est américain. Dans ce cas-là, on pourrait dire, on va interdire Apple et on va revenir à notre Minitel. Non, mais je veux dire, si on entre dans ce genre de logique en disant, il y a trop de vins français...
Non, mais c'est la fin de votre phrase qui est importante.
Oui. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que tous les ordinateurs qu'on considère comme américains, ils sont en fait, pour l'essentiel, fabriqués en Chine et dans les pays environnants. Si vous regardez un Apple, il y a marqué « Designed in California », conçu en Californie, et « Made in China », Vietnam de plus en plus, Corée, etc.
Et c'est toute la difficulté que rencontre le président Trump dans la guerre commerciale qu'il a initiée, pas seulement à l'encontre de la Chine d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il a des effets d'annonce, il explique « c'est scandaleux, on va taxer, etc. etc. » Puis au moment de mettre en œuvre, il se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué, et que ce sont ces entreprises qui produisent et qui gagnent beaucoup d'argent via
dans
des produits.
Dans un avion Airbus, il y a énormément de pièces françaises, par exemple, de pièces américaines.
Tout à fait, voilà. tout à fait. Et que tout ça est produit certes en Chine, mais que ça rapporte beaucoup d'argent aux entreprises américaines. Les délocalisations, la sous-traitance d'activités des entreprises du numérique ou des entreprises américaines en Chine a permis d'augmenter les plus-values des entreprises américaines et de soutenir le dynamisme américain.
Alors, il ne faut pas oublier qu'avec ces menaces de guerre commerciale, Donald Trump s'adresse aussi à son électorat. À l'approche des élections de 2020, le président américain a décidé d'utiliser les mêmes recettes que lors de la campagne précédente. Voyez ce sujet de Myriam Zéhar et Michel Bouilly.
Ce mur, Donald Trump en rêve depuis sa précédente campagne. Érigé à la frontière avec le Mexique, celui-ci est financé par des fonds privés. Mais bientôt, c'est une partie du budget du Pentagone qui servira à construire la gigantesque clôture. Le président américain a obtenu 2,5 milliards. Il jubile.
Waouh, grande victoire.
la Cour suprême des États-Unis a renversé l'injonction d'une cour inférieure, autorisant le mur à la frontière sud de continuer.
Une bonne nouvelle pour un Donald Trump en campagne, qui entend rappeler ses fondamentaux. Comme en avril dernier, en visite à la frontière en Californie.
Une grande partie de ce mur est fortement renforcée et très très difficile à escalader. Si vous voulez escalader ça, c'est assez coupant en haut. Si vous voulez escalader ça, vous n'aurez que ce que vous méritez.
Les États-Unis affichent complet, c'est le message assumé par Donald Trump, qui n'hésite pas à utiliser la menace économique face au Mexique. Si le pays ne contient pas l'immigration clandestine, le président américain promet d'imposer des taxes douanières à son voisin, jusqu'à 25% sur les produits importés. Ce qui a convaincu les autorités mexicaines, qui annoncent une baisse de 30% de migrants illégaux à la frontière le mois dernier.
Les arrestations sont en baisse parce que le Mexique a désormais 22 000 soldats. Et ils font leur boulot parce qu'ils savent ce qu'il peut se passer. L'alternative n'est pas bonne pour eux.
L'immigration et les conditions de vie des migrants sud-américains font l'objet ces derniers jours d'une passe d'armes très médiatique entre Donald Trump et des élus démocrates. Leur figure de proue, Alexandria Ocasio-Cortez, s'est elle-même rendue dans un centre de détention pour y dénoncer le traitement des personnes enfermées. La députée et trois autres élus de son parti, issus de la diversité, ont été récemment invités à retourner dans leur pays, selon les mots du président américain. Des propos inacceptables pour celle que les Américains appellent désormais la brigade.
Il ne sait pas comment défendre la politique qu'il mène. Donc ce qu'il fait, c'est de nous attaquer personnellement. Pour détourner l'attention, il lance de manière flagrante une attaque raciste sur quatre membres légitimement élus de la Chambre des représentants, qui sont toutes des femmes de couleur.
Ilhan Omar, cible privilégiée de Donald Trump, qu'il fait même huer dans ses meetings par ses partisans. Ce week-end, le président américain s'est trouvé un nouvel ennemi en la personne du député de Baltimore, Elijah Cummings. Donald Trump n'a guère goûté les critiques de l'élu quant à la détention des mineurs à la frontière, faite à son ministre de la Sécurité intérieure.
Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie quand un enfant est assis dans ses propres excréments et ne peut même pas prendre de douche ?
Une sortie qui a inspiré ce tweet au patron de la Maison-Blanche.
Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S'il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit très dangereux et sale.
Des amabilités qui ont profondément choqué, jusqu'à ce présentateur de CNN, originaire de Baltimore, qui craque en direct.
Les gens se réveillent et vont travailler là-bas. Ils s'occupent de leur famille et aiment leurs enfants qui ont prêté allégeance au drapeau américain. Tout comme les gens qui habitent dans des districts d'élus qui vous soutiennent, monsieur. Ils sont américains aussi.
Des Américains qui, selon une enquête, seraient 44% à avoir une bonne opinion de Donald Trump. À un an de l'élection présidentielle à laquelle il est candidat, le milliardaire peut encore compter sur sa base.
Alors, question téléspectateurs, Donald Trump parle-t-il avant tout pour faire plaisir à ses électeurs ? Anne Toulouse, dans tous ses tweets un peu insultants, est-ce qu'il se laisse déborder, Donald Trump, par ses sentiments, ou bien il y a une stratégie quand même ?
Il fait du Donald Trump, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il a appelé la véritable hyperbole, c'est-à-dire qu'il prend un sujet réel, comme par exemple l'état de Baltimore, dont tout le monde sait qu'il est lamentable. Le New York Times, il y a quelques mois, a publié un article qui était la tragédie de Baltimore. Donc on part de fait et on en tire un langage qui est parfaitement insultant. Alors, c'est certainement un appel à son électorat, mais c'est surtout la stratégie de Donald Trump en ce moment qui est très visible et qui marche. C'est de pousser les candidats démocrates à l'élection de 2020, qui sont une vingtaine, dont certains n'ont absolument aucune chance de passer les premières nominations, mais qui sont là pour leur publicité personnelle. et qui tire le parti vers la gauche d'une manière qui est très inquiétante
en
pour les
radicalisant la droite, il radicalise la gauche.
Il radicalise la gauche et surtout sur des problèmes qui sont extrêmement pratiques, comme l'immigration, dont tout le monde sait que c'est un problème qu'il faudra bien régler. Vous avez non seulement 11 millions de personnes en situation irrégulière, mais on ne pense jamais à l'immigration régulière, à tous les gens qui font la queue pour entrer aux États-Unis. Vous avez 5 millions de demandeurs de carte verte au nom du regroupement familial, avec des temps d'attente qui, pour les Philippines, sont de 23 ans. Vous vous rendez compte? Il y a aussi ce problème. Tout le monde sait que c'est un problème qu'il faut régler. Vous avez le problème de l'assurance maladie, où là aussi, poussé par la gauche du parti, les candidats se sont radicalisés, jusqu'à dire on va interdire les assurances privées. Mais vous avez 183 millions de personnes qui ont une assurance
privée. Et la stratégie, c'est d'hystériser les deux camps pour empêcher même les démocrates de revenir au pouvoir.
J'aime bien votre mot, parce que c'est exactement ça, le climat qu'on sent aux États-Unis. Et les démocrates partent dans ce mur en klaxonnant, ce qui est sidérant.
Donald Trump, on le présente toujours comme un businessman, mais on oublie que c'est un. Il fut à la tête d'une émission qui avait beaucoup de succès. Est-ce qu'il a, avec ses tweets, on a l'impression qu'il a étudié le sens de la formule qui marche et qui va faire mouche auprès, alors j'allais dire des téléspectateurs, sauf que maintenant ce sont devenus des électeurs.
Je crois que tout à l'heure ce que vous avez dit était parfaitement vrai. C'est quelqu'un, c'est un promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui se vend et ça a été aussi effectivement un présentateur de télévision et c'est quelqu'un qui a un besoin maladif de publicité. Je pense que la pire sanction qu'on pourrait infliger à Donald Trump, c'est qu'un matin on ne parle pas de lui.
Ah bon.
Voilà. Y a un, ou alors que Twitter tombe en panne et qu'il ne puisse pas s'exprimer pendant 24 heures. Et en même temps, il a très bien compris qu'il pouvait entraîner ses adversaires sur la même pente. C'est ce qui s'est passé en 2016. C'est sidérant, c'est de voir le Parti démocrate faire exactement ce qui lui a coûté si cher en 2016.
Sylvie Matelli, alors est-ce que ce n'est pas dangereux quand même de jouer ainsi sur la couleur de la peau des Américains? Et à cet égard, que dit Barack Obama qui pourrait à un moment dire bah, « écoutez, la situation est… » Non.
Barack Obama est assez silencieux.
Nous, en France, nos anciens présidents interviennent fréquemment dans le débat.
Oui, il a fait, je ne sais plus d'ailleurs dans quel journal, je crois que c'était dans le New York Times, dans le Washington Post, il y avait un op-ed, un éditorial de Barack Obama disant que c'est honteux. Mais Barack Obama, en ce moment, est assez silencieux parce qu'il ne veut pas se mêler de la campagne électorale. C'est délicat pour lui. Il y a son ancien vice-président. Je ne suis pas sûre que ce soit son candidat favori, mais en même temps, il ne peut pas ne pas le soutenir puisqu'il l'a choisi.
Et comme Michelle Obama, il n'y a pas question hein.
Non. C'est elle qui l'exclut, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, Michelle Obama... Bon, c'était simplement la première dame. Hein. Je sais que c'est une figure emblématique, en France surtout, mais c'était... Et je ne vois pas quel est le poids... Enfin, si, Michelle Obama s'exprime et s'indigne, mais vous avez aussi les filles de George Bush qui ont écrit, une des filles de George Bush qui a écrit « C'est un langage scandaleux ». Il y a une indignation universelle dans la classe politique.
Et dans cette... Alors, pardon, je vous pose beaucoup de questions parce que vous connaissez par cœur les États-Unis, pour être franco-américaine, d'ailleurs.
Connais par cœur parce que j'y vis.
Voilà, dans cette volonté donc, d'hystériser un peu le débat public pour rallier à soi une base électorale forte, est-ce que ce pays la France, c'est un ressort qui marche, ça.
Ça marche toujours, parce que les Français, moi, étant à cheval entre les deux pays, vous voyez, moitié française,
moitié américaine, qui n'aime pas l'autre.
Je dois être doublement arrogante, parce que c'est deux pays qui ont la réputation d'être à fleur de peau et d'aimer s'affronter. Donc, c'est vrai que la France est un pays qu'on peut facilement titiller, parce qu'en plus, il y a un prestige de la France, de même qu'il y a un prestige des États-Unis, et que les Américains ont conscience d'être mal aimés dans le reste du monde. Ils s'appellent eux-mêmes « ugly Americans », c'est les vilains Américains. Et les Français, c'est également un peuple qui se singularise, donc c'est une cible facile, et Jean-Marc, qui réagit bien.
Jean-Marc Vittori, Anne Toulouse parlait d'une dérive à gauche, alors j'ai pas, enfin d'une gauchisation assez prononcée du parti de gauche américain. Est-ce que sur le plan démocrate, sur le plan économique également, on assiste à la même gauchisation du discours? Il est même question de créer un ISF, je crois,
chez les démocrates. On n'a pas un mouvement qui porte seulement sur les questions de politique sociétale. Ou sociétale. On a un mouvement qui porte aussi sur l'économie et très fort. D'ailleurs, Sanders lui-même, enfin, le précédent candidat à l'élection présidentielle, avait des positions économiques très à gauche. Et le débat qui se déroule actuellement, mené notamment par AOC, hein, Alexandria, Ocasio-Cortez, qu'on a vu, ce sont des débats qui se situent extrêmement sur la gauche.
Donc,
Oui, mais peut-être par rapport à ça, il faut dire quand même, justement, vous avez raison, à mon avis, d'évoquer Sanders, c'est-à-dire quand on regarde le Parti démocrate aujourd'hui, sur les quatre premiers du Parti démocrate, on a effectivement Biden qui était le vice-président d'Obama, mais qui est âgé. Ils ont tous plus de 70 ans, quoi. C'est incroyable. Hein. Sanders a plus de 70 ans.
Comme Warren a plus de
70 ans. Comme Donald Trump, d'ailleurs, qui a 73 ans.
C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on est sur... on a l'impression, vraiment, le Parti démocrate, un peu quelque chose. Alors, il y a Kamala Harris, hein, qui est effectivement celle qui est arrivée numéro 2, sénatrice de Californie, noire. Donc là, pour le coup, qui pourrait peut-être cristalliser quelque chose. Mais même quand on regarde sur les dons qu'elle a obtenus, parce qu'aux États-Unis, on a quand même aussi très fortement de savoir combien d'argent vous avez potentiel, elle n'est pas bien placée. Hein. Donc, c'est quand même assez étonnant de voir aussi à quel point, on va dire, il y a une sorte de fossilisation.
Donc, il va être élu dans un fauteuil, Donald
non,
Trump ?
Non, je ne dirais pas ça. Non, c'est trop tôt. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui va sortir parmi les démocrates. Mais en même temps, par exemple, on parle de Bernie Sanders. Mais Bernie Sanders lui-même sait qu'il ne peut pas être élu président des États-Unis. Il s'intitule socialiste. Vous voyez un président socialiste aux États-Unis revendiqué, qui a passé sa lune de miel à Moscou au temps de la guerre froide. Vous voyez, tout ça va sortir. Donc, ce qui prouvait qu'il aimait vraiment le pays. Bernie Sanders veut imposer une certaine idée, une certaine image. Et il est élu, mais il est élu dans le Vermont, qui est un État totalement atypique, qui est l'État gauchiste des États-Unis. Mais il est néanmoins sénateur. Et Bernie Sanders impose l'image de marque de Bernie Sanders parce que c'est bien pour lui et parce qu'il y croit. Mais en même temps, il est en train de plomber le parti. Enfin, je suis désolée d'être anti-Sanders, ça ne va pas me faire des amis parmi certains Américains qui vivent à Paris. Mais c'est vrai que le Parti démocrate, qui a besoin en ce moment d'un candidat centriste, n'arrive pas à le trouver.
Bien. Eh bien, on a une politique américaine qui, comme en Europe d'ailleurs, s'est radicalisée dans les deux camps. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, si Donald Trump n'est pas réélu, que deviendra son mur ? Il a obtenu le financement, là, déjà.
C'est plus compliqué.
En tous les cas,
on va faire une autre émission là-dessus.
Son tweet. Macron avait-il prévu la réaction de Trump ? Philippe, oui, Sylvie Matelli.
Oui, parce que de toute façon, Donald Trump avait déjà attaqué le vin européen de par ce différentiel de taxation qui a été expliqué dans votre reportage. Donc il a repris le dossier en l'appliquant au vin français, mais il avait déjà ça dans le viseur depuis le mois de novembre dernier.
La troisième fois qu'il attaque.
Tout à fait.
Donc il va y aller là, hein. C'est ce que vous disiez ce matin sur France Inter.
Probablement, oui.
Une fois, deux fois, trois fois, il va y aller maintenant.
Hein. Attention, hein, il reste l'homme le plus imprévisible de la Terre.
Ah, donc pas de règle. L'exception est la règle.
Non, mais l'administration américaine a dans le viseur, dans son ensemble, la PAC, la politique agricole commune européenne.
C'est pas simplement.
Voilà, c'est ça. Il considère qu'il y a une sorte de rupture de concurrence, enfin une seule logique de concurrence déloyale.
Là. Nos viticulteurs ne vont-ils pas se tourner un peu plus vers le marché asiatique en plein essor ? Philippe de Sertine, on va...
Oui, mais la consommation est encore faible. Alors, le deuxième vilium du monde, maintenant, c'est le vilium chinois. Hein, parce que les Chinois, donc on dit toujours, hein, si chaque Chinois commence à boire un verre de vin par jour, alors là, vous faites exploser la consommation de vin dans le monde. Bon, l'essentiel de la consommation, c'est l'Europe. Ensuite, ce sont les États-Unis. L'Asie vient très, très loin derrière, hein, c'est-à-dire à peu près 10%, un peu plus de 10-15% de la consommation mondiale. Donc oui, il y a une potentialité, mais dans le futur. Aujourd'hui, le vrai marché, c'est l'Europe, c'est la France. Hein. La France est le second consommateur de vin par habitant, en volume. Après les États-Unis en volume. Donc le premier marché, c'est l'Europe. Le second, ça peut être effectivement les États-Unis. L'Asie sera un grand marché. C'est un marché déjà de niche sur les vins très chers. Il y a eu un retour de flamme très, très fort. Là, ce sont des marques. Vous voyez, quand Xi Jinping a repris les choses en main, il a empêché justement de continuer d'acheter du vin très, très cher par les dignitaires du Parti communiste chinois.
C'était devenu pour corrompre un dignitaire du parti. On lui offrait une bouteille de cognac à 1000 euros, hein, c'est ça ?
Oui, enfin bon, il n'y a pas de bouteille de cognac à 1000 euros,
mais
c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Et même d'ailleurs, il a commencé à avoir un vrai trafic de fausses bouteilles, hein, en Chine, tellement effectivement il y a une sorte de flambée. Mais potentiellement, l'Asie, oui, est le grand marché de demain, sûrement.
Mais la lutte est rude. Les Français ont perdu des parts de marché ces dernières années face aux Australiens et aux Chiliens. Qui sont moins taxés en Chine que les vins français.
Pourquoi ils sont moins taxés ?
Donc la question de la taxation du vin est une question...
Ce n'est pas une question seulement trumpienne, oui.
Oui, mais c'est une question centrale pour avoir des parts de marché.
Ça joue évidemment sur les prix.
Pourquoi les Chinois taxent moins le vin australien et chilien, notamment, ou argentin ? Parce qu'ils associent en fait les importations de vin à d'autres matières premières dont ils ont besoin. Et c'est tout le problème français, effectivement, c'est d'arriver en disant nous, on vend du vin. Les Australiens vont dire bah, nous, on vous propose un package dans lequel il y a du vin.
Vous taxez le tout modérément.
Exactement.
L'électorat de Trump est-il réellement contrarié de voir les GAFA payer des impôts? Sylvie Mathieu, je vois sourire.
Non, non, puisque c'est dans le programme aussi du président Trump. Donc il y a cette idée qu'il faudra arriver à taxer les GAFA. Ce n'est pas dans son seul programme d'ailleurs. Rappelez-vous, c'était George Bush à la fin de son mandat, ça devait être en 2007-2008, qui avait tenté de rapatrier une partie de l'argent des GAFA et qui avait proposé une taxation uniformisée pour tout le monde à 5%. Et la mesure n'a pas eu le temps de passer, puisqu'entre-temps, il a été remplacé par Barack Obama, qui a renoncé à appliquer cette mesure tant elle faisait un tollé aux États-Unis par le faible niveau d'imposition de ces GAFA.
Parce qu'il y a de l'optimisation fiscale aussi
tout
aux États-Unis.
Fait, hein.
Alors voilà. Oui, mais cela étant, Trump a réglé quand même vraiment le problème là avec une taxation réduite. Le problème, c'était la question de la taxation de la trésorerie. Ouais. C'était pas le vous voyez, c'est toujours là quand on parle de taxation.
Il y avait des milliers de milliards ou des centaines de milliards dans les offshore,
milliers de milliards. Hein, donc ils sont revenus avec un accord qui a été passé effectivement pour une taxation à 15% comme vous disiez sur la trésorerie et qui d'ailleurs est une des raisons qui explique la dynamique du marché des actions aux États-Unis. Parce que vous avez eu énormément de liquidités qui sont revenues par ce biais-là.
Les GAFA ne risquent-ils pas de quitter la France dès que la taxe sera établie, Jean-Marc Vittori?
Je n'y crois absolument pas.
Pourquoi?
Parce que c'est un marché important, qu'ils y font des ventes. Ils feront peut-être un petit peu moins de profit, mais ça ne les empêchera absolument pas d'y rester. Ils chercheront de nouveaux moyens, ils chercheront des canaux détournés. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est
de toute façon, ils sont...
même pas très, très compliqué.
On parle... Ils sont assez peu nombreux, hein. Ce ne sont pas des usines qui emploient ces dizaines de milliers de personnes, hein, ces entreprises. Hein.
Non, on est d'accord, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, répétons-le, 500 millions, quoi. C'est-à-dire c'est rien en termes de taxation.
Et des entreprises françaises, comme ça a déjà été dit, mais des entreprises françaises vont devoir payer.
Vont devoir,
pas seulement
les GAFA. Cette taxe
oui.
est mal nommée, elle ne concerne pas que les GAFA, elle concerne les entreprises numériques qui réalisent plus de 750 millions de chiffres d'affaires, dont 25 millions en France. Les GAFA financent-ils le Parti républicain pour que Trump soit réélu, Anne Toulouse?
Non. Je ne répondrai qu'une seule chose, non. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont des entreprises californiennes, ce sont des entreprises qui ont une extrême diversité dans leur personnel de haut niveau. Un des reproches que fait par exemple, je ne sais pas, Microsoft ou Amazon, c'est qu'ils ne peuvent pas recruter des ingénieurs de haut niveau à cause des lois sur l'immigration. Oui. Alors que vous avez un personnel qui vient d'Inde, de Chine, un peu partout. Et puis, c'est la culture et leur public qui est jeune, enfin, etc. On a parlé aussi de la guerre entre le patron d'Amazon et Donald Trump. Non, c'est...
En revanche, le Parti démocrate, on le sait ou pas, oui.
Ils donnent aux partis. Alors, les entreprises américaines sont quand même assez malines. Généralement, elles donnent aux deux. Oui,
ouais.
Parce qu'on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais ce qui arrive. Mais elles donnent inégalement.
Donald Trump, quand il était arrivé au pouvoir, il avait organisé une réunion avec tous les dirigeants des GAFA qui étaient venus. Depuis, les relations sont extrêmement tendues, en fait, entre Donald Trump et les dirigeants de ces grandes entreprises. Hein. Il a même été question à un moment que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, se présente à l'élection présidentielle. Et évidemment, ce n'était pas pour être le vice-président de Donald Trump. Donc, les relations sont extrêmement
tendues.
Sauf
que là, miraculeusement, Donald Trump se fait le porte-parole des GAFA pour éviter que les Français, les méchants Français, ne viennent taxer leur business.
Et, encore une fois, on est dans le symbole.
Et c'est le porte-parole des intérêts américains, plus que des GAFA en tant que tel.
Comme quoi, elles ne sont pas si apatrites que ça, ces entreprises. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Il y a toujours un politique derrière pour les défendre ou les enfoncer.
Oui, absolument.
Quels sont aujourd'hui les véritables alliés des États-Unis? J'allais dire qui? Alors, les alliés des États-Unis...
Tous ceux qui vendent aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils sont très, très nombreux.
Ce sont les asservis?
Qui vivent. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les Allemands, alors les Irlandais, bien sûr, etc. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui disent « je préfère effectivement conserver des bons liens avec les États-Unis plutôt que de rentrer dans un... » Toujours pareil, répétons-le encore, quoi, dans une lutte par rapport au GAFA, où c'est quoi le plan B, quoi? Est-ce que le plan B, si j'arrête Amazon, c'est d'avoir d'Alibaba? Parce que là, je ne suis pas sûr que j'y gagne, quoi. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une situation, en économie, on appellerait ça un oligopole, quoi, hein, et un oligopole en plus national, c'est-à-dire, donc, en réalité, on est quand même aujourd'hui dans une situation où, finalement, l'alternative n'existe pas, où l'énorme faute de l'Europe, c'est de ne pas investir là-dedans. Je ne dis pas dans le passé, parce que le passé, c'était une faute monstrueuse, mais c'est d'être toujours aujourd'hui encore très, très en retard dans ces investissements, y compris en France.
Voilà. Et puis en plus, On ne reproche rien aux GAFA, on leur demande simplement de payer des impôts comme les autres entreprises du CAC 40.
Oui, mais sauf que vous n'avez pas d'entreprise du CAC 40 qui fait de l'activité équivalente et qui aurait probablement les mêmes facultés d'échapper à l'impôt.
Voilà. Et donc, mais créer un Google français, hein, on sait bien, ça fait Jacques Chirac et Gerhard Schröder en parlaient déjà, je crois. Hein. Ils avaient trouvé un nom latin qui m'échappe, le truc n'a jamais vu le jour. Hein. Quero, voilà, ça me revient.
Ça a vu le jour, mais ça n'a pas marché.
Ça a vu le jour, ouais, ben bon. Trump taxe le vin, alors pourquoi ne faisons-nous pas la même chose avec des produits importés des États-Unis ? Pourquoi nous, on fait aussi une liste, non, de produits américains, de Harley, de jean ou de...
Alors on l'a fait.
On l'a fait ?
On l'a fait, puisque pas à l'échelon français, hein, mais à l'échelon européen. Quand Donald Trump avait annoncé ses premières mesures qui visaient l'Europe, l'Europe a répondu en ciblant un certain nombre de produits, dont les Harley-Davidson, qui sont produits dans des swinging states, des États qui peuvent basculer du côté démocrate ou républicain pour essayer
de cibler l'électeur.
Exactement, bien sûr, bien sûr. Pour essayer d'affaiblir Donald Trump dans son pays. Donc oui, ça se fait tout de même. Il ne faut pas dire que l'Europe ne fait rien tandis que les États-Unis font tout.
Au niveau européen.
Il y a des éléments de riposte.
Oui, voilà. Mais c'est l'une des faiblesses peut-être des Européens, c'est que la politique commerciale est européenne. Donc les Européens doivent s'unir, être tous d'accord pour imposer des mesures de rétorsion. En plus d'une Union européenne qui ne souhaite pas rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis pour toutes les raisons qu'on a évoquées et le poids de cette économie américaine. Et un président Trump qui a bien compris cette faiblesse et qui attaque des pays. Et pas du tout l'Union européenne. Il a arrêté l'Union européenne. Il a vu Jean-Claude Juncker l'an passé. Ils ont négocié un accord qui valait ce qu'il valait, mais qui n'imposait pas grand-chose, et il a compris que ce n'était pas par là que ça passerait et qu'il fallait diviser les Européens.
Une réponse de l'Europe, ça peut être de dire, on fait des accords avec le Canada, ça va embêter les États-Unis, on fait des accords avec le Vietnam, ça va embêter les États-Unis et la Chine, on fait des accords avec le Mercosur, ça c'est la logique un peu européenne, hein, en disant, on vous prend au jeu exactement inversé, en disant, nous on détaxe, on va voir qui c'est qui va gagner la course. Ce n'est pas forcément idiot. Hein.
Dans cette affaire, Macron semble bien isolé, n'est-ce pas ? En fait, tout le monde a peur de Donald Trump et donc les autres le regardent en disant bah, « débrouille-toi avec… »
Non, je ne crois pas du tout.
Non.
Sur l'histoire de la taxe GAFA, la France a avancé parce qu'elle a essayé de fédérer les États
mais
européens.
Mais elle est seule aujourd'hui.
Elle n'y est pas arrivée, mais il y a des projets qui avancent, y compris à l'échelon européen.
Royaume-Uni, Italie, Espagne.
Pas Royaume-Uni, mais Allemagne, Italie, Espagne. La France n'est pas le seul pays où on s'inquiète des GAFA qui payent peu d'impôts. C'est un vrai sujet européen. Et la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on arrivera à organiser mais le travail est en cours.
Pourquoi ne pas profiter du Brexit pour forcer l'Irlande à un peu plus de solidarité ? Mathélie, maintenant l'Irlande est toute seule. Oui, alors si tant est qu'on considère que les Irlandais soient les alliés des Américains, des Anglais, mais bon.
Oui, non, ça peut être.
On ne peut pas faire entendre raison aux Irlandais.
Mais répétons-le, c'est dire quoi ? C'est dire la fiscalité irlandaise sera française ? Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est nous qui avons le taux de.
S'il y a des paradis fiscaux, il y a aussi des enfers fiscaux.
Oui, exactement.
Bon, alors, dernière question. Cette campagne critique contre la France fait-elle monter Trump dans les sondages ? En un mot.
C'est difficile à dire. Non, pour l'instant, comme l'un de vous le disait, il est, je crois que c'est votre reportage, à 44% d'opinion favorable dans la moyenne des sondages. Donc, il est assez élevé.
Eh bien, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonne soirée sur France 5.